Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Depuis longtemps, la nature a montré aux hommes ses prouesses et ses richesses. Et certains, comme Léonard de Vinci, pour ne citer que lui, ont puisé dans ce génie du vivant pour imaginer des innovations propres à aider les hommes et à les rendre plus performants. Aujourd'hui, plus de 175 équipes de recherche, ingénieurs, biologistes, designers, architectes, médecins, travaillent sur le biomimétisme et s'en inspirent, notamment dans une démarche de bien-être environnemental. Le biomimétisme au secours des hommes, ou comment le génie du vivant et de la nature nous pousse à l'humilité, c'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités. Emmanuelle Pouy-Debat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, spécialiste de l'évolution des comportements et donc auteur du livre « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », un livre paru chez Odile Jacob. Et avec nous également Karina Loire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de nos studios de France Bleu Occitanie à Toulouse. Vous êtes journaliste, scientifique et indépendante et auteur du livre « Toutes les idées sont dans la nature », le biomimétisme, un livre édité chez Actes Sud Junior. Et en seconde partie, dans l'actualité qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien Le Monde. L'œil du monde planète sera aujourd'hui la journaliste Mathilde Gérard, qui nous racontera comment la ville de Montpellier œuvre pour une certaine autonomie alimentaire. Enfin, l'escale verte nous emmènera sur la côte est des États-Unis avec le photographe américain Alex McLean, également pilote d'avion et militant écologiste. Il est de passage à Paris pour la sortie de son dernier livre Impact, vision aérienne d'une zone assiégée avant la montée des eaux, un très beau livre paru aux éditions de La Découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka avec Anna Bui, à la technique aujourd'hui Jérôme Kaufmann.
Cette chercheuse travaille avec le groupe Airbus sur une aile d'avion nouvelle génération. Et pour la créer, elle a d'abord longuement observé les oiseaux.
Les oiseaux prédateurs nous donnent de très bons exemples parce qu'ils ont un système d'ailes, ailerons et plumes de différentes tailles qu'ils utilisent savamment pour optimiser les performances en vol.
L'équipe de Mariana Brazza a étudié les mouvements d'ailes des rapaces et s'en est inspirée pour créer ce prototype.
La partie à l'arrière, elle est capable de se déformer pour adapter la forme de l'aile, donc comme le feraient les oiseaux avec leurs muscles. Et la partie derrière, tout ici, elle est capable de vibrer comme les plumes d'un oiseau.
En plus de réduire le bruit au décollage et à l'atterrissage, cette aile du futur permettra à l'avion de consommer 1% de carburant en moins. À la clé pour Airbus, de réelles économies. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2020.
Extrait d'un reportage diffusé le 22 juin 2016 avec cette interview de la chercheuse Mariana Brazza. Elle travaille pour Airbus et donc ce reportage diffusé sur France 2 qui montrait Emmanuel Pouy-Debat le monde vivant, les stratégies, les systèmes d'adaptation à toute situation, un monde extraordinaire. Et je crois que c'est Léonard de Vinci d'ailleurs qui disait « va prendre tes leçons dans la nature, c'est là ». Qu'est notre futur.
Oui, là c'est sûr, vous voyez, l'intérêt il date pas d'aujourd'hui. Hein. Non, ça fait très longtemps que ça intéresse beaucoup de gens et c'est vrai qu'il faut bien penser que la vie elle est là depuis presque 4 milliards d'années. Donc c'est 4 milliards d'années pendant lesquelles toute forme de vie a essayé de s'adapter, d'innover, d'optimiser. Donc c'est autant d'exemples pour nous qui sont d'ailleurs probablement inépuisables à aller piocher dans la nature. On parle de presque 2 millions d'espèces connues, 10 millions de supposées, mais 2 millions d'espèces connues, mais seulement 10 000 sont décrites. Espèces animales, je parle même pas du monde végétal. Hein. Donc ça laisse vraiment, enfin tous les espoirs sont permis.
Tous les espoirs, mais dans certains cas, il faut faire vite. Hein. Dans l'introduction de votre livre, en tout cas dans la préface écrite par Gilles Boeuf, de mémoire, je crois qu'il cite une perte de la biodiversité estimée entre 500 000 et 1 million d'espèces d'ici à quelques dizaines d'années.
Oui, c'est tragique. La situation est vraiment tragique. On a perdu 70% de petits vertébrés, 30% d'oiseaux. Je vous dis pas les conséquences pour les insectes aussi. Il y a une chute dramatique de la biodiversité dans le monde, en Europe aussi. On est bien sûr très impliqués aussi. Donc il faut faire vite. Et c'est Victor Hugo aussi qui disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas ». Donc c'est exactement ça. Voilà, la nature parle, écoutons-la.
Carina Loire, vous précisez dans votre livre, de votre côté, qu'il y a à peu près 175 équipes, je crois, de recherche qui travaillent aujourd'hui sur le vivant, enfin aujourd'hui et depuis des années, qui aussi sont entraînées dans cette course un petit peu pour renseigner tout ce qu'on peut apprendre de la nature.
Oui, en fait, il faut savoir quand même que le biomimétisme est assez récent, puisqu'en fait, il a été remis au goût du jour, si on peut dire, par une Américaine qui s'appelle Janine Bienus, et qui a reparlé de la démarche biomimétique, mais en mettant vraiment l'accent sur le côté durable. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de recopier ce que fait, aussi bien et en mieux souvent, différentes espèces, mais de le faire de manière durable, c'est-à-dire avec le moins d'énergie possible, avec zéro déchet, avec une certaine éthique. Et c'est là où, en fait, c'est très intéressant le biomimétisme, c'est-à-dire que ça incite les chercheurs à regarder différentes espèces, mais aussi à innover durablement. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus effectivement d'équipes, tout simplement parce que aussi les connaissances s'améliorent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de techniques d'observation, on peut de plus en plus se répliquer grâce notamment à la nanotechnologie. Mais c'est vraiment, là, on est vraiment au début, parce que je suis pas certaine qu'il y ait encore aujourd'hui des réflexes du biologiste qui, quand il a trouvé quelque chose, une particularité très intéressante, aille voir un ingénieur pour lui dire, voilà, ça serait peut-être intéressant de répliquer ça. Et inversement, les ingénieurs, quand ils cherchent quelque chose, n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir un chercheur du muséum pour s'inspirer.
Emmanuel Puy-de-Bas, finalement, vous l'expliquez très bien au tout début de votre livre, vous nous dites, on est nuls, quoi. C'est-à-dire que nous les humains, on n'est pas bons. On pense que la bipédie, c'est formidable, mais finalement, on ne sait pas faire grand-chose par rapport à cette nature incroyable.
On n'est peut-être pas nuls, mais si je le pense un peu quand même. Disons, je pense qu'on manque peut-être d'humilité, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été inventées dans la nature et qu'on n'arrive même pas à reproduire, parce que c'est parfois très complexe. Un collègue parlait à l'instant de tout ce qui est nanostructure, en termes de reproduction de matériaux qu'on peut observer, qui sont incroyables. Je pense à la structure des ailes des papillons morpho, ces papillons magnifiques qui sont bleus, qui ont une structure vraiment, alors on est dans l'ordre du nanomètre, donc les stries, les écailles, toute la morphologie, elle est extrêmement complexe à reproduire, et pourtant ça pourrait améliorer nos panneaux solaires, parce que ces papillons-là, ils savent justement réguler la température interne des ailes malgré de très fortes chaleurs. Ce qu'un panneau solaire aujourd'hui ne sait pas faire, quand la température elle est extrême, il ne sait plus fonctionner. Mais on ne sait pas la reproduire encore, donc on cherche. Donc c'est pour ça que je dis qu'on manque d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mieux observer. Et là, je suis complètement d'accord qu'en tant que biologiste, il faut qu'on apprenne à regarder autrement et à quantifier ce qu'on veut quantifier autrement, avec des perspectives qui sont liées à la bio-inspiration. Donc là, de ce côté-là, il y a du travail, et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que il n'y a pas très longtemps, on avait une journée biomimétisme, bio-inspiration je préfère, au muséum, et on parlait justement de ce problème-là, c'est-à-dire rien qu'entre nous, mieux discuter sur les biologistes qui sont intéressés par la bio-inspiration, et justement comment le muséum doit être plus lisible pour des ingénieurs ou toute entreprise qui serait intéressée pour en faire. Et ça, c'est un gros travail qu'on est en train de mener.
Que la connexion soit plus rapide et plus efficace, hein,
exactement,
c'est ce que vous dites.
Exactement.
Alors, prenons certains thèmes qui peuvent nous éclairer aussi sur ce qui peut nous inspirer aussi dans la nature en matière d'amélioration environnementale. Les déplacements, la mobilité par exemple.
Pour la mobilité, je vais prendre un exemple qui est assez flagrant, c'est l'exemple du martin pêcheur. C'est un animal qui s'est plongé dans l'eau pour pêcher, tout simplement ou tout complexement justement. Il pêche, il peut faire des pointes à 80 km/h. Quand il traverse l'eau, il y a très peu d'éclaboussures par rapport à la vitesse à laquelle il impacte l'eau.
Avec un bec très effilé.
Un bec très profilé justement. Mmh. Il y a très peu d'ondes de choc. Ça a inspiré la nouvelle génération d'un TGV japonais, le Shinkansen, puisque justement, eux, ils avaient un problème de bruit pour les passagers et pour les riverains, notamment à l'entrée des tunnels, et ce qui occasionnait aussi une perte de vitesse et un bruit qui était vraiment une pollution sonore. Et justement, avec ce nouveau nez du TGV japonais, non seulement il va plus vite, mais ensuite en consommant moins d'énergie, parce qu'il y a moins de frottement, donc qui dit moins de frottement, moins d'énergie, et puis il y a moins de bruit. Voilà un exemple assez frappant de ce qu'on peut...
Et on entendait ce son en début d'émission sur l'aéronautique, sur les avions. Je crois que c'est le colibri notamment, les requins, l'écureuil volant qui ont inspiré aussi les améliorations.
Oui, là chez les oiseaux, alors il y a tout à piocher. Effectivement, les écureuils aussi. Le colibri, c'est incroyable. Hein, c'est plus en termes de jets ressentis, c'est bien plus puissant qu'un avion de chasse. Hein. C'est un animal qui, pour séduire la femelle, fait un piquet nuptial, c'est-à-dire il fait une grande descente qui peut aller très vite. Hein. On est à l'ordre d'une centaine de kilomètres heure. Et puis d'un coup, il va ouvrir ses ailes, donc ça va décélérer d'une manière extrêmement puissante. C'est là où il se prend 6 ou 9G dans les ailes, hein, donc c'est extrêmement compliqué.
Alors qu'il est
plus,
tout petit,
il est minuscule, c'est un tout petit oiseau qui est magnifique d'ailleurs. Ouais. Et c'est un animal qui sait aller dans toutes les directions, y compris le vol stationnaire. Donc c'est évidemment, la structure de ses ailes et toute sa physiologie pour être capable de faire ça, ça inspire évidemment tous les aéronefs, que ce soit les hélicoptères, des nouvelles générations de micro-drones, comme les libellules d'ailleurs, qui inspirent des nouvelles générations de micro-drones. Chez les oiseaux, il y a tout à piocher.
Mais comment on les étudie alors? On les enferme dans des grandes pièces? Comment on fait?
Pour une libellule, oui, on peut tout à fait l'étudier en contexte expérimental. Pour un colibri, ils ont essayé aussi, et il y a des choses qu'ils ont quand même réussi à faire. Hein. Donc on peut faire une analyse biomécanique, c'est-à-dire on va essayer de comprendre la vitesse à laquelle il se déplace, les accélérations qu'il subit, tout le système physiologique qui est attaché à ça, parce que le sang, forcément, en fonction des variations de vitesse, il n'est pas du tout le même. On va regarder la structure des ailes, donc on peut regarder la structure microscopique, nanoscopique des ailes, enfin, tout est possible.
Carina Loire, alors si on vous lance sur la mobilité, les déplacements, vous pensez à quoi en particulier?
Moi, je pense à la fourmi. Je trouve que vraiment, c'est un insecte formidable. D'abord parce que donc elle bénéficie d'une intelligence collective qu'on devrait de temps en temps avoir. Et je pense notamment à l'algorithme des fourmis, en fait. Je suis rentrée dans le biomimétisme suite à un livre sur les maths, justement par rapport à cet algorithme des fourmis, chose que j'ignorais complètement. Et de la même façon, par rapport aussi aux bancs de poissons, parce que j'ai découvert qu'il y avait des chercheurs qui étudiaient les bancs de poissons, les nuées d'oiseaux, pour rechercher comment, en fait, les petites interactions qu'il pouvait y avoir les uns les autres pouvaient finalement créer un comportement de groupe extrêmement intelligent. Et donc, par rapport justement à l'algorithme de fourmis, qui est un algorithme qui est aujourd'hui utilisé notamment pour justement effectuer des trajets les plus courts possibles.
C'est-à-dire, ça a inspiré les GPS, c'est ça?
Ça a inspiré, en fait, des systèmes de mobilité très économes. C'est-à-dire qu'en fait, les fourmis, quand elles se déplacent, elles déposent des phéromones qui sont des substances odorantes. Et en fait, on se rend compte que plus il y a de substances odorantes, donc sur les différents chemins, plus en fait la fourmi finalement trouvera le chemin le plus court. Et donc ça a donné lieu à un algorithme qui est utilisé aujourd'hui pour faire des économies d'énergie, pour distribuer le courrier par exemple, ou pour ramasser les ordures. Donc on voit vraiment que ça a des incidences vraiment en termes de développement durable. Et de la même façon, ces fourmis, quand elles ont identifié en fait la source de nourriture, donc évidemment toutes les fourmis se ruent sur cette source, et pour éviter justement de créer des embouteillages, en fait, elles vont soit deux fois plus vite, ou alors elles prennent des chemins de traverse. Et en fait, ça a donné lieu à l'application qui s'appelle Oise, que tout le monde utilise. Donc, quand elles prennent ces chemins de traverse, elles déposent des phéromones, ce qui correspond en fait pour les automobilistes aux notifications. Et au final, en fait, ce système a inspiré donc cette application. Et on se rend compte justement que ce système Oise repose exactement sur le même système, c'est-à-dire que c'est sur l'intelligence collective des automobilistes qui évite justement de créer des bouchons.
Finalement, le système, vous dites Wise, d'autres disent Waze d'ailleurs.
Waze, oui,
voilà, c'est ça. Ce système Waze, il faut aujourd'hui qu'on dise merci aux fourmis, quoi.
C'est... Exactement.
Emmanuel Puy-de-Bas, il y a des exemples incroyables dans vos livres. Le pivert et les casques anti-choc, le poisson coffre et la voiture de demain, la bionic car. Allez, parlez-nous un petit peu de ces cas précis.
Pour le pivert, j'adore cet exemple-là, parce qu'il faut imaginer qu'un pivert, il va taper à peu près 12 000 fois par jour sur un tronc. Il faut quand même le faire, respect à lui déjà. Ensuite, en termes de force ressentie, c'est énorme. En termes d'accélération, on ne peut même pas s'imaginer. Nous, on n'y survivrait pas. Hein. Et donc, il y a des études qui ont été menées pour essayer de comprendre comment la morphologie du bec et du crâne, et surtout la morphologie interne des os du crâne, pouvait supporter de tels chocs. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une morphologie très aplatie des os et que les os étaient très spongieux. Et donc ça permettait d'amortir les chocs. Et ça a inspiré la création de casques nouvelle génération qui sont inspirés de la structure crânienne du pivert et qui sont extrêmement solides et qui en plus sont relativement légers.
Donc plus mou alors pour absorber les chocs.
Souple. en termes de structure interne. D'accord. C'est-à-dire que l'extérieur va être plutôt rigide, mais à l'intérieur, ce sont des structures qui sont relativement souples en termes de microstructures.
Et là, par contre, ça a fait plouf. Hein. Le poisson oui. coffre et la voiture de demain, la bionic car, personne n'en a voulu, mais pourtant, elle a quand même donné lieu à un prototype.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a un prototype qui a été fait, qui était inspiré de ce poisson coffre qui est juste craquant. Allez voir à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. C'est un animal qui, quand il se gonfle pour faire un petit peu peur, hein, pour faire fuir les prédateurs potentiels, est absolument irrésistible. Et c'est vrai que ça a inspiré ce prototype de voiture parce qu'en fait, c'est un poisson qui a un profil morphologique et fonctionnel qui lui permet de prendre des virages extrêmement rapidement, à 180 degrés très rapidement. Donc, il est extrêmement performant en termes de changement de trajectoire. Ça a fait pouf parce qu'un des autres problèmes finalement qu'on a parmi les nombreux autres en bioaspiration, c'est qu'à un moment donné, le coût est extrêmement cher pour pouvoir diffuser, si j'ose dire, la découverte.
On va partir sur le thème aussi de ce que l'on doit à la nature en matière de bien-être et de médecine, hein, et ce n'est pas bénin, mais je vous propose d'écouter tout de suite ce reportage diffusé le 6 juillet 2012, donc 7 ans déjà, et 7 ans après, où en est-on, serait intéressant.
Regardez les mouches voler, Stéphane Violet est payé pour ça. Sa spécialité, l'œil de mouche, et c'en est un admirateur.
Allez, allons à la chasse à la mouche.
Une mouche est capable de multiples prouesses, par exemple, est capable d'éviter les obstacles dans un environnement qu'elle ne connaît pas a priori. Elle est capable d'atterrir automatiquement, de décoller automatiquement.
Ici, pas question de faire du mal à une mouche. Entre deux expériences, on prend même le temps de réhydrater la bête. Au bout de la pince, quelques gouttes d'eau pour cette mouche qui commence à fatiguer.
Elles ont besoin de force pour vos expériences.
Exactement. Des expériences éprouvantes. Allez, cocotte.
L'œil de mouche, Stéphane Violet s'en est inspiré pour mettre au point un œil artificiel. Ce petit robot dénommé Laura en compte 4.
Alors grâce à sa vision de type mouche, on va dire, grâce à sa vision du mouvement, ce robot est capable d'éviter de rentrer en collision avec les parois de ce couloir ici.
Une trajectoire encore hésitante et pourtant dans quelques années cette technologie devrait faire mouche. À terme, les aveugles pourraient troquer leur canne pour ces yeux artificiels.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Carina Loire, vous en parlez hein, de cette mouche, mais à l'image d'Emmanuel Puydebas aussi dans son livre, hein, c'est un œil de mouche pour permettre aux non-voyants de se déplacer sans risque.
Oui, je ne sais pas exactement où en est justement cette application, mais en fait le principe c'était qu'effectivement il y a un petit œil de mouche qui a été répliqué, que l'aveugle par exemple pourrait accrocher à un foulard ou à son manteau et qui, à l'approche en fait d'un obstacle, sonnerait. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Moi, l'exemple vraiment aussi que j'ai trouvé très étonnant, c'est l'exemple du petit ver marin, qui est en fait un ver arénicole, et qui a la capacité de stocker 40 fois plus d'oxygène que l'être humain. Et donc aujourd'hui, c'est une vraie application et ça commence à être utilisé pour notamment les greffes d'organes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette hémoglobine qui transportait davantage d'oxygène pouvait être transfusée à l'homme. Donc en fait, c'est compatible. Et aujourd'hui, dans certains hôpitaux, on commence justement, pour conserver plus longtemps les organes à greffer, à transfuser cette hémoglobine chargée d'oxygène. Et donc c'est un petit ver qui est très ancien, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, parmi les exemples biomimétiques, très souvent, en fait, c'était des animaux très anciens. Alors je ne sais pas ce qu'on pense, donc qui existent depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc je me posais la question justement auprès. Je posais la question.
Emmanuel Puydebas.
Emmanuel, en me disant, est-ce que justement le fait que ce soit ancien et qu'ils aient résisté à toutes les catastrophes, c'est peut-être un signe, voilà, très intéressant, un indice en fait pour les chercheurs.
On peut s'interroger effectivement sur le fait qu'il y a des espèces très anciennes qui sont porteuses de solutions. Et évidemment, qui dit espèces très anciennes, hein, 300, 400, 500 millions d'années pour certains ancêtres, hein, par rapport à certaines espèces qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, elles ont traversé énormément de crises climatiques, donc énormément de bouleversements du milieu. Et mine de rien, elles ont survécu. Donc probablement qu'effectivement, elles avaient ce qu'on peut appeler peut-être une plasticité, c'est-à-dire une capacité à s'adapter à divers problèmes de toutes sortes. Et donc potentiellement, elles sont peut-être effectivement plus porteuses, je dis bien peut-être, hein, plus porteuses de solutions potentielles que des espèces plus récentes, même si on trouve heureusement dans des espèces plus récentes de quoi s'inspirer.
Alors justement, votre inspiration à vous, Emmanuel Puydebas, par rapport à ces prodigieuses performances quand même de la nature en matière de médecine, de progrès médicaux.
On a des espèces animales qui développent pas de cancer, ou très peu. Je pense au rat taupe nu. Alors lui, c'est vraiment un animal complètement à part. C'est un petit mammifère qui dit rat, dit normalement à peu près 2 ans d'espérance de vie. Lui, il en vit 30. Pas de cancer, pas de maladie cardiovasculaire, pas de blessure.
Donc, il est scruté, on imagine, par les chercheurs, pour
comprendre comment tout ça est possible. Et on se rend compte qu'il y a des phénomènes très complexes de régénération cellulaire. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Après, j'en profite quand même pour dire attention à ces transpositions humaines. Enfin, c'est forcément, ça fait rêver, on est d'accord. Mais chaque espèce est unique et on ne pourra pas tout transposer. Et j'ai envie de dire presque
heureusement. Tant mieux.
Oui, probablement. Mais après, c'est vrai que ça porte à questionnement. Pareil pour certains requins hein, qui ne développent pas de cancer ou très peu par des mécanismes cellulaires encore qui restent à explorer. Et puis moi, je travaillais en ce moment sur des écrevisses et des éléphants. Donc vous voyez que le gap, il est assez gros. Mais le point commun, c'est qu'ils manipulent. Et une écrevisse, quand elle manipule, elle a que deux doigts. Hein, c'est deux paires,
ouais, c'est
deux
paires de pinces.
C'est une pince. Et pourtant, elle fait des choses assez... Elle est très performante. Et ça a inspiré un collègue roboticien avec qui je discutais pas mal. Parce que moi, j'ai été recrutée en interdisciplinaire. Et l'interdisciplinarité, pour moi, c'est le cœur de la bioinspiration.
Ah ben c'est sûr.
Et donc, en fait, lui, il m'a dit, mais c'est fantastique parce qu'elle a justement, elle a que deux doigts. Et nous, ça va nous simplifier les calculs énormément.
Pour les petits robots.
Exactement.
Donc, et la trompe de l'éléphant, alors?
Alors, pour les petits robots, pour des prothèses. C'est-à-dire pour des prothèses à deux doigts fonctionnelles pour des handicapés. Donc là, on rejoint aussi la médecine. C'est pour ça que ça m'avait fait penser à mes petites écrevisses. Quant à l'éléphant, c'est encore autre chose. L'éléphant, il a une trompe absolument incroyable. On est en train de travailler dessus depuis un an. Il est capable de manipuler un popcorn et de déraciner un tronc d'arbre. Donc, c'est à la fois de la précision, de la puissance, le tout avec pas de squelette à l'intérieur. Donc ça, quand vous donnez ces mots-clés-là à un roboticien, il vous dit « Ouh, bras mou, robotisé, ça m'intéresse !» Donc voilà, il y a des mots-clés comme ça qui nous intéressent. D'accord. Et encore une fois, il y a tout reste à découvrir.
Et alors, en matière d'architecture de demain, parce que tous ces enjeux environnementaux, le réchauffement climatique, on en parle régulièrement, il faut aussi envisager une adaptation. Et cette adaptation, elle existe déjà dans la nature. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur les matériaux de demain, ou la solidité, la thermorégulation thermique, qu'est-ce qui est en cours et qui nous inspire?
Je pense à un exemple qui me vient là, c'est plus des objectifs de créer des climatisations mécaniques pour faire un peu d'économie d'électricité. Et là, il y a un exemple qui me plaît beaucoup, c'est le prototype de maison escargot qui a été inventé par une équipe d'étudiants iraniens qui se sont amusés, hein, il n'y a pas d'autre mot j'ai l'impression, à observer et à comprendre comment l'escargot du désert, qui a justement une coquille blanche, donc qui réfléchit la lumière, arrive à faire baisser sa température interne de 10 degrés, donc il passe de 60 degrés à 50 degrés environ, parce que les spirales internes sont organisées d'une certaine manière, hein, ce sont des réseaux circulaires, et lui à l'intérieur il se déplace en fonction de la journée ou de la nuit dans certaines zones des spirales. Et ça leur a inspiré la maison escargot, en fait, qui est organisée de manière circulaire à l'intérieur et qui permet une régularisation de la température et des flux d'air qui leur permet de faire baisser la température de la maison.
Karine Alloire, à quoi vous pensez justement quand on part sur ce thème de l'architecture de demain, les matériaux écologiques aussi?
L'exemple le plus connu, c'est évidemment l'exemple de la termitière qui a été développé donc par un architecte qui vit au Zimbabwe. Les termitières, donc, qui sont des petits insectes qui vivent dans la savane, en fait, elles subissent des températures qui peuvent osciller entre 5 degrés et 50 degrés. Et donc, elles ont mis en place en fait un système de ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'elles ont creusé des galeries assez profondément dans le sol, de façon à avoir de toute façon de l'air frais. Et le long de ces petites tours, si on peut dire, elles ont fait des petites galeries, et en fait, elles passent leur journée à boucher ou au contraire à déboucher les petits trous, ce qui leur permet en fait de maintenir une température à 29 degrés. Et donc cet architecte africain qui était passionné justement par ces termitières, par ces constructions, a reproduit en fait cet immeuble, donc à Harare. Il a fait des fondations assez importantes pour assurer l'air froid. En haut, il a fait des grandes cheminées et sur les parois des immeubles, il a fait beaucoup d'ouvertures. Et résultat, donc, l'immeuble maintient une température entre 20 et 25 degrés. Et par rapport aux autres immeubles, bon, c'est beaucoup moins énergétique. Il a fait la même chose ensuite en Australie. Donc, en fait, on sait que ça marche. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plutôt l'impression que les architectes n'ont pas encore complètement pris la mesure de l'urgence.
Ça rejoint ce que disait en début d'émission Emmanuel Puy-de-Bas sur la mise en connexion aussi, le côté interdisciplinaire, c'est-à-dire travailler tous, que ce soit biologiste, chercheur, architecte, tous main dans la main pour aller beaucoup plus vite pour la mise en application de ces découvertes, hein, Emmanuel Puy-de-Bas.
Oui, pour rebondir, nous on travaille en ce moment, on a une doctorante, Estelle Cruz, qui est architecte de formation, architecte, designer, et justement elle s'intéresse à tout ce qu'elle va pouvoir puiser dans la nature pour améliorer justement l'architecture de manière globale et proposer de nouveaux nouveaux projets et elle s'intéresse notamment aux échanges entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Et comme effectivement dans le monde animal que je connais un petit peu mieux, il y a énormément de thermorégulation interne et puis des échanges en permanence chimiques, de température, etc. entre l'intérieur et l'extérieur, c'est sûrement porteur de plein de découvertes. Donc il y a des jeunes architectes qui sont portés sur la chose et je suis bien heureuse de les accueillir au laboratoire.
Et alors on découvre aussi dans vos livres comment la nature peut nous aider à réduire les gaz à effet de serre. Alors on a parlé avec vous du papillon morpho bleu hein, pour concevoir les panneaux solaires de demain. Il y a aussi les éoliennes de demain inspirées des libellules et des colibris à nouveau.
Oui, de nouveau. Alors eux, vraiment, ils peuvent inspirer plein de choses différentes. L'avantage des libellules, c'est qu'il leur faut très très peu de vent pour actionner leurs ailes. Donc du coup, ça peut permettre d'optimiser des éoliennes qui, malgré un très faible vent, pourraient tout à fait s'actionner. Quant aux colibris, alors eux, voilà, ils ont un battement d'ailes qui est phénoménal. Hein. Ça a inspiré à certains des éoliennes à ailes battantes, ce qui serait assez nouveau. Donc ils sont en train de tester pour voir si au niveau énergétique, ça vaut la peine. Parce que si c'est plus coûteux, ça ne sert pas à grand-chose.
Et, oui. Et puis alors les requins et la baisse de consommation de carburant, c'est possible ça?
Oui, c'est possible parce qu'ils ont une structure de la peau qui est en fait assez particulière. Il faut imaginer que si on regarde la peau d'un requin avec un microscope, on a plein de denticules qui leur permettent de réduire les frottements en fait. Donc, alors pour certains, ils sont très rapides, ils peuvent aller jusqu'à 80-90 km/h comme le requin mako. Alors encore une fois, il faut être capable de reproduire cette peau de requin. Il y en a qui ont essayé, ils y sont plus ou moins arrivés. En tout cas, si on met cette peau de requin sur un robot, effectivement, on fait baisser la consommation énergétique. Donc ça, c'est assez porteur. Après, ils ont essayé pour battre des records dans les piscines. Là, ça a beaucoup moins marché parce que justement, c'est pas si simple de reproduire et de ce qui peut marcher dans un contexte peut ne pas marcher dans un autre. Hein. C'est là où ça se complexifie durement.
Il faut du temps, mais une belle bio-inspiration en tout cas à découvrir avec toutes les deux, hein, Emmanuel Puy-de-Bas et Karina Loire. Je vous propose d'écouter à ce stade de l'émission un choix musical. Alors on vous a sollicité les uns les autres, on a choisi le choix musical de notre invité de la deuxième partie, Alex MacLean, qui nous a proposé Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, et notre invité qui vient d'entrer d'ailleurs dans le studio et que l'on retrouvera dans 20 minutes.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
C'était Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, le choix d'Alex MacLean qu'on va retrouver tout à l'heure. Le biomimétisme au secours des hommes ou comment le génie du vivant et de la nature nous pousse à l'humilité, c'est le sujet que nous explorons aujourd'hui avec Emmanuel Puy-de-Bas, directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'évolution des comportements et auteur du livre « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », un livre paru chez Odile Jacob. Et avec nous également en duplex de nos studios de France Bleu Occitanie à Toulouse, Toulouse, Carina Louard, journaliste scientifique indépendante et auteure du livre « Toutes les idées sont dans la nature, le biomimétisme », un livre pour les jeunes, édité chez Actes Sud Junior. Alors mesdames, des villes se sont inspirées aussi de la nature pour être plus performantes sur le plan environnemental, hein, face au gaspillage notamment. Carina Louard, je crois que vous parlez dans votre livre de Kalundborg, petite ville danoise.
Oui, en fait, c'est un port qui regroupe un certain nombre d'industries. Donc, c'est à peu près aujourd'hui 70 industries qui a été mis en place sur le principe de la nature, c'est-à-dire tout ce qui est rejeté par certains est consommé par d'autres. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, l'énergie qui serait rejetée par telle ou telle industrie serait utilisée comme chauffage pour les habitants. Les eaux usées pourraient être, enfin, sont d'ailleurs utilisées pour l'aquaculture, puisqu'il y a justement ce type de structure dans cette ville. Donc ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'en fait c'est un système qui est quasiment autonome, qui réplique en fait l'écosystème naturel. Et là aujourd'hui, il y a Grande-Synthe près de Dunkerque. Ils ont des entreprises sidérurgiques, métallurgiques, chimiques, etc. Et ils utilisent le même principe. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la symbiose industrielle, et qui est un peu le principe d'ailleurs de la permaculture en agriculture. C'est un peu le même système.
Puis avec une gestion des déchets, justement, avec le recyclage à la clé, pour économiser aussi tout ce qu'on prend à cette nature.
Exactement. Donc en fait, c'est un peu le principe d'ailleurs de la forêt, c'est ça en fait, en réalité. C'est-à-dire tout ce qui est consommé est rejeté, recyclé, et c'est le principe justement du recyclage avec des systèmes industriels autonomes qui consomment autant qu'ils produisent d'énergie en fait, c'est le principe.
Emmanuel Poudéba, ça vous inspire peut-être quelque chose, hein, cette nature comme modèle. C'est vrai que pour l'agriculture de demain, on pense à la permaculture, que l'on commence à avoir plus largement exploré ou remise à l'honneur, parce que ça existait déjà dans le temps, mais on était passé à autre chose.
Oui, non, c'est sûr qu'il faut vraiment se pencher sur ces modèles-là. Il faut davantage les appliquer, il faut les généraliser à chaque fois qu'on le peut. Il faut aussi penser qu'on a des modèles végétaux aussi qui peuvent nous inspirer pour détoxifier et pour dépolluer les sols, par exemple. Chez les fabacées ou les légumineuses, ce sont des plantes qui peuvent tout à fait absorber du zinc ou de l'azote sur des sols, par exemple, qui étaient contaminés sur des sites miniers, hein, par exemple. Donc il faut vraiment essayer de repenser à toute cette nature qui effectivement recycle, pour mieux recycler nous et mieux dépolluer. Mais là, il y a un petit peu de travail.
Et vous êtes vous-même sollicité par des maires ou par des politiques, des décideurs qui justement dans leur secteur ont envie d'utiliser cette nature?
Alors à titre personnel, non. Mais par contre, je sais que le muséum l'est probablement sur des projets, en tout cas, de villes dites écologiques, sur des projets comme ça.
Par contre, vous mentionnez dans votre livre la ville de Venise qui bénéficie justement, elle, de la nature pour essayer de surveiller aussi la montée des eaux, c'est ça?
Oui, tout à fait, la montée des eaux et puis la pollution de la lagune. En fait, ils se sont inspirés d'animaux comme par exemple des poissons qui vont en banc, par exemple, hein, qui vont justement se diriger très rapidement, changer de direction très rapidement, aussi de moules. Donc qui, elles, sont au fond de l'eau et qui vont capter des informations justement sur la pollution et qui vont aussi filtrer, et des nénuphars qui, eux, sont en surface de l'eau. Et ils se sont inspirés de ces modèles animaux-là pour créer trois robots qui vont fonctionner en intelligence collective, hein, on parle de robotique intelligente, hein, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer entre eux et se transmettre des informations sur tout un tas d'indices chimiques de l'eau pour les transmettre ensuite aux humains. Il y a des humains en haut de tout ça qui récupèrent toutes les informations et qui les transmettent pour agir le plus rapidement possible dès qu'il y a un taux de pollution qui est insupportable dans la lagune.
Carina Loire, sur ces questions un petit peu plus larges, c'est-à-dire comment aujourd'hui, face au réchauffement climatique, face aux enjeux environnementaux, où chacun peut peut-être s'inspirer de la nature, comment est-ce que voilà, vous voyez, ou peut-être la façon dont cette nature pourrait plus rapidement nous apporter des solutions?
Je pense qu'il faudrait peut-être davantage de recherches et davantage de liens peut-être entre les biologistes et les ingénieurs. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience justement de l'importance du biomimétisme, mais je pense que quand même la limite, c'est de pas forcément recopier. Il faut vraiment recopier en ayant un certain objectif, à savoir toujours préserver en faisant le plus d'économies possible, en ayant une certaine éthique, par exemple. Je pense que certains robots, même certains drones d'ailleurs, qui sont utiles, bon, effectivement, qui sont inspirés de certains insectes, sont pas forcément conçus pour le bien de l'humanité, par exemple. Donc, je pense qu'il faut essayer de miser sur des recherches toujours en ayant cette approche durable. Mais je pense que de toute façon, face à l'urgence, le biométisme peut être une espèce d'outil qu'on pourrait utiliser pour justement regarder davantage la nature, peut-être la préserver donc davantage. Je pense que quand même, on est vraiment en période actuellement où c'est vraiment le début du biomimétisme, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience importante.
Emmanuel Puy-de-Bas.
Je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment un retour à la biodiversité, et il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut qu'on sauvegarde un potentiel évolutif à cette vie. C'est-à-dire que la vie, elle évolue depuis 4 milliards d'années, et on est en train d'abîmer ce potentiel de continuité évolutive. Et ça, c'est assez insupportable. Quand on est biologiste, qu'on travaille sur l'évolution, c'est assez insupportable. Et je pense que là, le biomimétisme, il a un rôle à jouer. La bioinspiration, d'une manière générale, elle a un rôle à jouer. Et tout ce qui est lié aux problèmes éthiques, on en a beaucoup discuté entre collègues, justement, lors de cette journée du muséum. C'était très intéressant. Il y avait des avis, alors assez différents, mais en général, ça convergeait, il n'y a pas de souci. Et ce sont pas des problèmes simples à résoudre. Donc, il faut déjà que nous, entre nous, on soit tous d'accord, qu'on ait la même ligne et que ensuite, effectivement, on communique le plus possible avec tout le champ qui existe, que ce soit dans les sciences de l'ingénieur, dans les entreprises, les politiques. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de le plus général possible, je pense. Il faut vraiment qu'on améliore notre communication pour que la bioinspiration ait un rôle à jouer pour ce retour à la biodiversité.
Rapidement, Emmanuel Puy-de-Bas, peut-être l'espèce animale ou végétale qui a votre préférence.
Je vais dire la dernière, l'éléphant, parce que je travaille sur l'éléphant en ce moment. Éléphant d'Afrique, éléphant d'Asie, en ce moment, ils sont
c'est en grave danger d'extinction.
Oui, les pauvres, c'est assez dramatique. Et c'est un animal qui m'inspire à la fois de la tendresse, qui m'impressionne. Beaucoup d'humilité quand on est en face d'un éléphant, je vous jure, on se sent tout petit.
Merci à vous, Emmanuel Puy-de-Bas. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Quand les animaux et les végétaux nous inspirent, un livre paru chez Odile Jacob. Merci, Karine Alloire. Et à la technique, bien sûr, de France Bleu Occitanie à Toulouse. Toutes les idées sont dans la nature, le biomimétisme. C'est votre livre édité chez Actes Sud Junior. Et tout de suite, seconde partie de notre émission avec tout d'abord l'œil du monde planète. Et nous prenons donc la direction de la rédaction des pages planète du journal Le Monde. Et dans l'actualité qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, l'œil du monde planète n'est autre que Mathilde Gérard. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressée cette semaine à la ville de Montpellier qui a accueilli le sommet des maires du pacte de Milan avec 200 villes engagées pour une alimentation durable. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors le pacte de Milan, c'est un texte qui a été signé, comme vous l'avez dit, par 200 villes qui s'engagent à fournir à leur population une alimentation saine et durable. C'est un texte qui est très ambitieux dans son écriture, mais après qui n'a aucune valeur contraignante et qui vaut surtout parce que, en fait, le pacte de Milan, c'est une plateforme d'échange entre les villes qui se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques, les difficultés qu'elles rencontrent, les solutions concrètes qu'elles peuvent mettre en œuvre. Donc l'objectif, c'est d'avoir une dynamique vertueuse entre les villes. Et voilà, Montpellier, cette semaine, a accueilli pendant 3 jours des délégations représentantes de ces villes pour pouvoir justement mettre en réseau toutes leurs initiatives.
Donc un partage d'expériences, des réflexions et peut-être même à terme des alternatives proposées. Il faut préciser que Montpellier finalement a fait partie du pacte depuis le début.
Oui, c'était une des premières villes signataires en 2015, c'était lors de l'exposition universelle de Milan. Et Montpellier, c'est vrai qu'ils réfléchissent à cette question alimentaire depuis plusieurs années maintenant. Un des premiers axes de leur politique, c'est vraiment la question foncière, l'accès aux terres. Montpellier, c'est la ville de France qui connaît la plus forte croissance démographique et il y a une grosse pression immobilière. Et ils se sont engagés à l'échelle de la métropole, donc c'est vraiment le grand Montpellier avec les communes environnantes, à pérenniser 2/3 de terres agricoles ou espaces naturels, pour 1/3 d'espace résidentiel. Ça veut dire que la ville n'est pas censée s'étendre au-delà de ses limites actuelles si ça se fait au détriment de terres agricoles. Alors ça se concrétise dans un schéma territorial. Et puis il y a eu des réflexions menées avec la Chambre d'agriculture pour identifier des parcelles disponibles pour mettre à disposition des agriculteurs. Alors c'est loin d'être parfait parce que ça ne veut pas dire que toutes les terres sont exploitées vraiment de façon exploitations agricoles. En plus, on est à Montpellier et il y a beaucoup des terres agricoles, en fait, sont viticoles. Donc, on n'est pas non plus sur des terrains forcément nourriciers et beaucoup de jeunes qui veulent s'installer ont du mal à trouver des parcelles à cultiver. Donc, c'est vraiment loin d'être parfait, mais c'est un engagement quand même assez fort, étant donné la pression démographique de la ville, de dire qu'elle ne doit pas grignoter davantage sur les terrains agricoles et que si la ville doit croître, c'est plutôt en se densifiant qu'en s'étendant.
Et donc, Montpellier se distingue par sa volonté de se rapprocher d'une autonomie alimentaire. Comment est-ce qu'elle fait et quelle est son ambition ?
Alors effectivement, l'autonomie alimentaire, c'est un des objectifs affichés par le maire, Monsieur Philippe Sorel, pour 2050, mais c'est plus un slogan que vraiment une réalité. L'idée, c'est quand même d'essayer de relocaliser ce qui peut l'être, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui tombent sous le sens. Et là où on voit des avancées assez concrètes sur Montpellier, c'est sur les cantines scolaires. Depuis 2014, ils ont vraiment complètement revu leur modèle de cantine. Alors, ça a commencé par la mise en place de tarifs sociaux, ce qui se fait beaucoup ailleurs. Ils ont aussi mis en place un système de réservation des repas assez rigide pour les familles, mais qui fait qu'ils peuvent anticiper au plus juste les quantités qu'ils doivent fournir chaque jour. Et puis, ils ont complètement réécrit leurs appels d'offres pour que des petits producteurs puissent y répondre. Donc, il y a eu des appels d'offres par filière très précises, pour les pêches, pour les tomates, pour les concombres, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir dans leur cantine tout un tas d'aliments pour lesquels l'approvisionnement est vraiment 100% local.
Eh bien, merci Mathilde Gérard. On n'en dit pas plus parce que je pense qu'il y a tellement à découvrir dans vos articles sur le sujet et sur le pack de Milan aussi, qu'on va laisser les auditeurs plonger dans vos récits à retrouver, Mathilde, sur notre site, bien sûr, de l'émission et puis sur lemonde.fr. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et j'en profite aussi pour signaler quelques rendez-vous à venir du 14 au 9 octobre à Brest, Ouessant, Molène et sur l'île de Sein. Un rendez-vous international avec des chercheurs, des artistes, des citoyens sur les îles. Ces îles qui sont des laboratoires d'innovation sociale et environnementale. Également du 18 au 21 octobre, le Festival international Nature, le regard féminin aura lieu à Perpignan. Et puis enfin, à l'Institut du monde arabe, le 25 octobre, un forum sur les initiatives écologiques dans le monde arabe. Voilà, beaucoup d'événements et d'expositions ou de rencontres à votre disposition sur notre site également. Mais sans plus attendre, à suivre l'Escale verte.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Le pont s'est effondré, coupant la route qui mène à Wilmington. Un bateau est posé là, en pleine forêt, emporté par les vents. Celui-là s'est échoué au pied de cette maison. La Caroline du Nord découvre encore les dégâts de l'ouragan Florence. Avec les pluies, c'est au nord, à Fayetteville, loin de la côte, que les habitants évacuent. Les cours d'eau débordent.
C'est triste, parce qu'on est nombreux à perdre nos maisons et toutes nos affaires, et à devoir partir.
Parfois, il y a des gens qui sont piégés au deuxième étage de leur maison. Il y a quelqu'un ici ?
À la station essence, la longue file d'Américains fatigués par la tempête.
Le générateur a fonctionné pendant 2 jours, mais maintenant, on n'a plus d'essence. J'ai jamais vu une tempête passer aussi lentement.
Place à l'Escale verte. Chaque semaine, par le biais de nos invités, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires préservés ou en danger, des actions positives ou négatives, des événements aussi, et le tout avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction la côte est des États-Unis. Avec nous, Alex McLean. Bonjour Alex.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Xavier Combes, votre interprète. Donc je précise que vous êtes photographe, architecte de formation, militant écologiste, pilote d'avion, ce qui vous permet de faire depuis des années des vues aériennes superbes que l'on découvre dans votre album intitulé Impact, un album paru aux éditions de La Découverte. Une petite réaction peut-être tout d'abord. En ouverture, nous avons diffusé cet extrait d'un reportage qui est passé le 17 septembre 2018. Tout simplement une tempête extrême, la tempête Florence en Caroline du Nord. 17 morts. Est-ce que vous en souvenez?
Yes, it was a tremendous hurricane that came through.
Oui, c'est un ouragan très violent, inondation, des vents extrêmement violents. Et moi, Neuf mois plus tard, j'ai survolé la zone et les dégâts sur la zone côtière étaient absolument incroyables. Il y avait beaucoup d'érosion de la côte, de très nombreuses maisons complètement détruites et il a fallu consacrer beaucoup de temps pour reconstruire. Alors la question est, faut-il reconstruire dans ces zones côtières devenues si dangereuses et si oui, comment reconstruire ?
Alors cela fait 45 ans que vous nous renseignez, en tout cas que vous travaillez avec ces photos magnifiques, mais depuis les 15 dernières années, vous consacrez votre énergie, si je peux dire, à la crise climatique. Concrètement, est-ce que vous avez le sentiment que, justement, concernant ces événements dramatiques, violents, que les choses s'accélèrent et que ce réchauffement climatique dont on parle, vous le visualisez typiquement sur le terrain ?
Oui, les choses ne font qu'accélérer et empirer de manière exponentielle. Les épisodes météorologiques violents sont de plus en plus nombreux et violents. Remontons à l'ouragan Katrina qui a touché la côte sud, puis il y a eu l'ouragan Sandy, l'ouragan Florence. Et ce sont des ouragans qui sont de plus en plus porteurs de pluie. Cela génère des inondations. Et ça, c'est un des grands retentissements de l'ouragan Florence. Des inondations énormes, non seulement sur la zone côtière, mais aussi une collision entre les eaux de l'ouragan avec les eaux qui sont en aval des rivières qui se jettent dans l'océan.
Et alors, ce livre que vous nous proposez, Impact, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la continuité de votre livre Over, qui dénonçait la place de l'automobile, les pollutions, le gaspillage? Ce livre précédent nous proposait la face noire du rêve américain. Avec Impact, quelle était votre ambition de départ?
My ambition with this book was that, you know, since I did Over, it was not received that well in the U.S.
Over n'a pas fait l'objet d'une réception très chaleureuse aux États-Unis. En Europe, si, mais comme vous l'avez dit, il y avait un côté assez obscur de la façon dont je décris les méfaits de l'économie et il nous faut nous adapter et trouver une nouvelle façon d'envisager nos modes de vie et l'urbanisme en particulier. Il y a une prise de conscience quant au dérèglement climatique, mais je pensais que ce livre Impact devait alerter les gens sur le fait que la montée des eaux, c'est quelque chose qui ne doit pas faire l'objet de scepticisme. Il y a des réalités, je les montre dans mes photos. Par ailleurs, c'est un phénomène universel et c'est un phénomène irréversible. Il faudrait être fou pour penser que les eaux ne monte pas. Depuis l'ère glaciaire, les choses ont évolué et nous sommes face à ça. Et il faut anticiper les impacts que peuvent avoir les montées des eaux. En fait, la montée des eaux ne nous touche pas encore de façon très dramatique. Encore, bon, on est à quelques centimètres par an, par endroit, donc ce n'est pas extrêmement visible, mais néanmoins, on comprend bien la vulnérabilité des zones côtières, et les ouragans, tous les tempêtes qui ont frappé, notamment la zone, les zones côtières sur la côte est des États-Unis, montrent à quel point ces zones sont vulnérables et vont en fait nécessiter que l'on ajuste notre économie, parce que tout cela, ça coûte des milliards de dollars, des pertes de productivité et en fait des difficultés terrible pour certaines familles qui perdent leur maison, tout le secteur financier, tout le secteur immobilier, tout cela est touché. Donc j'essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience que ça nous va nous coûter des fortunes de réparer tout ça, sans parler de l'infrastructure qui doit être réparée ou reconstruite pour nous adapter au dérèglement climatique. Donc cela va avoir un impact immense.
Alors vous dites que depuis 2 ans à peu près, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience plus largement. C'est ce que vous ressentez concrètement aux États-Unis ?
Oh, I think definitely, very much so.
Oui, oui. Et c'est parce que conscience croissante. Mais tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre. Il y a les incendies, les feux de forêt en Californie qui sont liés au dérèglement climatique. Il y a des inondations, des crues dans le Midwest. On a vécu ça au cours de l'année dernière. Et ça rend les choses très difficiles pour les agriculteurs qui enregistrent des pertes énormes. Et sur les zones côtières, il y a ces ouragans, ces tempêtes. Les ouragans ne vont pas trop dans le nord, mais l'ouragan Sandy, lui, a été jusqu'à New York, la ville de New York. Et les dégâts ont été très importants, plus importants que jamais. Donc la menace est de plus en plus prégnante. Les gens sont très inquiets à chaque fois qu'il y a un ouragan qui annonce sa venue imminente. Donc c'est un très gros problème. Et par ailleurs, rien que la montée des températures dans le sud des États-Unis, ça génère des préoccupations et ça rend la vie difficile. L'été est étouffant dans le sud des États-Unis.
On voit des photos de ces zones suburbaines qui sont les plus à risque aujourd'hui. Ce sont aussi celles qui attirent le plus les populations quand même. L'attrait de la mer, au-delà des risques encourus, ce sont aussi, comme on le découvre sur vos photos, des zones de tous les excès. Les piscines, les bateaux, les richesses affichées face à un désastre imminent. Est-ce que malgré tout, il y a une difficulté ou à prendre une vraie conscience du drame qui se joue ? Est-ce que le monde, quand même, n'est pas devenu fou ?
You know, I was surprised because I'm always very hopeful that people will change their behaviors.
Moi, je reste optimiste. Je pense que les gens pourraient changer leur comportement, mais je dois dire que, à titre personnel, j'ai été particulièrement surpris par ces excès, ce mode de vie excessif que l'on a sur les côtes. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leur comportement peut avoir un impact sur l'environnement et le dérèglement climatique. Trop de consommation énergétique en particulier. Et je me souviens en avoir eu la révélation de par justement ces excès. Et ça vous fait un peu vous demander s'il faut être optimiste. Est-ce que l'on pourra changer de cap à temps pour éviter un dérèglement climatique véritablement catastrophique? Et l'un des objectifs de mon livre, c'est de sensibiliser les gens aux conséquences auxquelles il faudra faire face à l'avenir.
It was interesting, you know, from my point of view in Boston.
Boston.
What a hot summer it was
here. Là où je vis, j'ai entendu parler de la canicule ici à Paris. Et je me suis dit que les Parisiens devaient vivre des conditions étouffantes, donc ça devient difficile un peu pour plein de gens partout dans le monde. Donc ce sera difficile du point de vue économique aux États-Unis, mais il y aura beaucoup de stress mental et physique qu'il faudra être confronté. Les gens ont des maisons qui sont menacées, il y a l'érosion des côtes. Et les gens se rendent compte qu'ils sont en péril là où ils vivent. Alors, certes, on profite des joies de la côte et de la présence de la mer, mais en même temps, c'est extrêmement anxiogène de penser à ce qui pourrait advenir dans les années à venir. Et cela n'est pas sans toucher le secteur financier. Les gens prennent des prêts immobiliers sur 30 ans. L'assurance compte le risque présent et pas le risque à venir dans 30 ans. Donc les banques commencent à se rendre compte qu'elles ont une responsabilité lorsqu'elles assurent ces prêts hypothécaires. Et il y a plein de banques qui revendent leur prêt au gouvernement, donc on passe par un système d'assurance fédérale, mais là c'est le secteur public qui va devoir supporter la charge financière de tout ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a des grandes questions institutionnelles qui se posent, en plus des problèmes qui touchent les individus un par un.
Et
Lorsque je me suis lancé dans ce projet de livre, je n'étais pas certain de pouvoir faire comprendre la menace qui pèse sur nous en raison de la montée des eaux. Mais à mesure que j'avançais dans le projet, je me suis rendu compte que l'infrastructure est en cause. Par exemple, vous avez une ligne ferroviaire qui va de Boston à Washington et qui passe par des zones humaines, des marais. Nous avons des centrales nucléaires en pleine zone côtière qui sont extrêmement vulnérables. Nous avons des usines de traitement des eaux usées qui sont situées au niveau de la mer. Et la reconstruction ou le déplacement de ces infrastructures, ça représente une charge financière immense.
Mais de la même façon, maintenir ces infrastructures ou maintenir ces maisons dans ces zones où la nature va reprendre ses droits et où le réchauffement climatique induit une montée des eaux, c'est aussi des coûts. On voit bien tous les renforts, les digues artificielles, les brise-lames, l'élévation des constructions. C'est un peu aussi cette folie de l'argent. Mais Alex MacLean, j'ai l'impression que vous commencez aussi peut-être un troisième projet, dites-moi si je me trompe. Il y a quelques photos qui montrent des solutions comme les toits verts alternatifs. Est-ce que c'est justement vers cela que vous avez envie d'aller ?
Well, there's definitely a third project.
Oui, troisième projet, il y a. Bien sûr, il me faut un projet. Oui, il existe des solutions vertes. Et même dans ce livre, nous évoquons certaines de ces solutions. Il faut utiliser des système naturel pour se protéger de la montée des eaux. Et ce que l'on voit sur l'ensemble de la côte, c'est la mise en place de barrières, de dunes de sable. Et on fait des digues naturelles faites de sable. Et évidemment, il faut que les plantes s'y enracinent et qu'il y ait une diversité des plantes. Et c'est là que cette digue naturelle de sable pourra être plus forte.
J'ai
vu un phénomène sur une plage que je n'ai pas compris. Il y avait beaucoup d'algues à un moment. Et quelqu'un m'a dit, oui, mais il y a une barrière d'ouragan. Et donc, moi, j'ai dit, je ne vois pas de barrière d'ouragan. Mais moi, je pensais que ce serait une structure en acier ou alors une barrière en avec des roches. Mais non. Il s'agissait de dunes qui avaient été faites il y a 10 ans ensemble. On appelle ça la barrière de l'ouragan. Donc, ça résiste, ça peut résister. Évidemment, la nature a les moyens de résister. C'est ça qu'il faut pouvoir exploiter. Par ailleurs, on voit des systèmes d'élevage de coquillages et de moules qui ne font que renforcer la barrière naturelle. Évidemment, ça gagne en hauteur et j'espère que ça pourra endiguer, en quelque sorte, la montée des eaux. Quelques centimètres par an, ça pourrait fonctionner. Et bien entendu, il faut préserver les zones humides et ne pas construire dans les baies, les anses de la mer et ainsi de suite. Donc, il faut en fait s'en référer à la nature. Il faut utiliser ce que la nature nous propose pour trouver les solutions les plus efficaces et les moins coûteuses. Je ne dis pas que ça va arrêter la montée des eaux, mais ça permettra de réduire le retentissement de la montée des eaux.
Merci à vous, Alex MacLean.
Thank you. Merci.
Et je rappelle le titre de votre album paru aux éditions de La Découverte, Impact, visions aériennes d'une zone assiégée avant la montée des eaux, avec de superbes photos, vous l'aurez compris. Et merci aussi à notre interprète, Xavier Combes. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute toujours à votre disposition. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur la page Facebook. Dimanche prochain, émission spéciale en compagnie de l'essayiste américain Jérémy Rifkin et de la sociologue Dominique Méda. Belle rencontre en perspective sur le thème du New Deal vert mondial. Mais vous restez bien sûr sur France Culture, c'est la suite de vos programmes avec Être et Savoir et Louise Touré.